Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir d'accueillir le philosophe et essayiste Alain Laurent. Bonjour Alain Laurent.
Bonjour.
Merci d'avoir pris de votre temps pour nous rejoindre, mais vous connaissez cette maison de longue date puisque vous avez été en son temps prix de l'Académie pour votre ouvrage dont vous nous rappelez le titre.
Oui, c'était en 2002 pour La philosophie libérale qui avait obtenu le prix Biguet, c'est-à-dire de philosophie politique de l'Académie française.
Alors vous êtes un libéral, c'est ainsi que vous êtes classé, ne serait-ce que d'ailleurs parce que vous êtes un grand spécialiste de Turgot. Alors vous êtes directeur de publication aux Belles Lettres, c'est comme ça que je crois votre titre.
Directeur de collection.
Directeur de collection aux Belles Lettres. Vous avez produit de très nombreux ouvrages dont au-delà de celui que vous venez donc de rappeler, qui a obtenu donc le prix de l'Académie, La philosophie libérale, Le libéralisme américain, histoire d'un détournement en 2006, prix du livre libéral. Et vous venez de faire paraître tout récemment aux Belles Lettres La société ouverte et ses nouveaux ennemis. Et par ailleurs, vous jouez aussi collectif. Vous ne faites pas qu'en solo, puisque vous avez participé à un ouvrage collectif qui est promu par le Cercle Turgot et édité et coédité par Les Échos et Erol, dont le titre est en soi déjà une invite à acheter cet ouvrage, « Repenser la planète finance, regard croisé sur la crise financière ». Et vous-même, vous faites étalage de votre connaissance de Turgot avec donc un article qui s'appelle « Le libéralisme et laisser faire la leçon de Turgot ». Donc vous voilà très occupé, votre plume je dirais est extrêmement occupée.
Ah tout à fait, oui.
Et si vous voulez bien, nous allons commencer par découvrir, enfin en tout cas donner quelques indications sur votre ouvrage « La société ouverte et ses nouveaux ennemis » à nos lecteurs. Bien sûr, on voit quel est le sujet. Vous reprenez un peu à votre compte ou le contre-pied de La société ouverte et ses ennemis de Karl Popper, mais vous y apportez votre propre touche. Alors, quelle est votre thèse centrale ?
Il s'agit de nouveaux ennemis. C'est-à-dire que je prends en effet appui sur la thèse sur le livre fort célèbre de Karl Popper, mais qui date de 1944. Et dans cet ouvrage, Popper, vite suivi d'ailleurs par Hayek, indiquait quelles étaient, comment il fallait interpréter cette notion de société ouverte, mais d'une façon tout de même assez large et peut-être un peu trop vague. Hayek était plus précis et indiquait en effet qu'il y avait une sorte de mode d'emploi, qu'il y avait des conditions, qu'il y avait des règles à respecter pour qu'une société puisse s'ouvrir au maximum, ce que l'on souhaite souvent, sans pour autant courir le risque de s'auto-dissoudre ou de se désintégrer. Et alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'actualiser cette idée de société ouverte, dont on parle beaucoup d'ailleurs actuellement, en considérant que ce qu'avait soutenu à l'époque Popper, et Popper non seulement précise ce qu'est la société ouverte, indique qu'en effet les sociétés occidentales, démocratiques, libérales, peuvent en effet être caractérisées par cette notion de société ouverte, en gros, ça veut dire ouverte à la liberté des individus de créer, d'entreprendre, de circuler, d'échanger des idées, etc. Mais quelque chose qu'on oublie souvent de considérer dans son titre, c'est que cette société ouverte avait des ennemis. Et selon lui, c'est pratiquement inéluctable parce que ce qu'implique la notion de société ouverte, à savoir l'accès à la responsabilité individuelle, l'ouverture à beaucoup de possibles pour les individus, ça implique en revanche qu'il y ait des règles qui soient assez strictement suivies. Alors qu'en est-il actuellement ? Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a toujours des ennemis, et justement, quelqu'un dont on évoquait tout à l'heure le nom, qui est mon regretté ami et compagnon de combat intellectuel, Jean-François Revel, a souvent développé cette thèse, à savoir que les sociétés ouvertes, contrairement à ce que des gens sans doute excessivement optimistes avaient pu imaginer il y a une quinzaine d'années, au moment de la chute des premiers ennemis, des ennemis principaux, des années 50, 60 de la société ouverte, à savoir le communisme, le bolchevisme, etc., eh bien, Revel indiquait qu'elle ne tarderait pas à voir se développer de nouveaux ennemis. Mais cela étant, ils ne sont peut-être pas ceux exactement auxquels on s'attend. Donc moi, j'ai fait ma recherche de ce point de vue-là, à l'ère du libre-échange, de la mondialisation, de la globalisation, etc. Est-ce que nos sociétés occidentales, qu'on peut caractériser donc comme société ouverte. Alors j'ouvre une petite parenthèse en signalant que, très heureusement, c'est peut-être un des rares points positifs que l'on peut relever actuellement, hors d'Occident, il y a d'autres, il y a des sociétés émergentes, des sociétés ouvertes émergentes, je pense en particulier au Japon, beaucoup à l'Inde, dont on parle tellement actuellement. Il y en a par exemple comme le Mexique, éventuellement l'Afrique du Sud.
Mais vous considérez que le Japon est une société ouverte ?
C'est une société ouverte du point de vue des échanges, mais comme aurait dit Weber, c'est un type idéal, la société ouverte, et par conséquent, selon les sociétés, il y a toujours telle ou telle restriction. La France est une société ouverte, mais pas tellement du point de vue, en tout cas sur le plan de l'opinion publique et des idéologies dominantes, pas tellement sur le plan, par exemple, du libre-échange et du capitalisme. Les États-Unis sont une société ouverte, mais pas tellement du point de vue, par exemple, de la religion. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas croyant pourrait accéder à la présidence des États-Unis ? Donc chaque société a ses limites du point de vue de l'ouverture, et le Japon en a sur certains plans, naturellement.
D'accord, se rapproche d'un certain idéal, mais l'idéal voilà, est encore à construire.
Un idéal ne s'atteint jamais par définition. Il fixe la route et l'horizon.
Alors, vous parlez tout à l'heure de Jean-François Revel. Je suppose que vous faisiez allusion essentiellement à son livre sur la nouvelle censure. C'est à celui-là que vous pensiez ou...
Oui, il abordait tous ces thèmes dans beaucoup de ses ouvrages depuis une quinzaine d'années. Alors, puisqu'on fait allusion à ce titre, la nouvelle censure, en effet, j'y étais confronté. Dans la mesure où essayer de pointer ce que sont actuellement les nouveaux ennemis des sociétés ouvertes, alors on peut penser évidemment, et ça tombe pratiquement sous le sens, à tout ce qui se passe avec l'islamisme, mais ça va sans doute un peu plus loin, puisque ça pose, et là, en effet, j'ai jeté un pavé dans la mare, ça pose même le problème des rapports entre l'islam en tant que religion et la société ouverte. Est-ce que l'islam peut s'adapter à une société ouverte, étant entendu qu'une société ouverte est presque nécessairement sécularisée, laïcisée, qu'elle sous-entend la liberté absolue de conscience et, bien entendu, l'égalité des sexes. Donc tout cela, Popper l'avait déjà souligné, et ça pose pas mal de problèmes. Mais il y a d'autres problèmes qui se posent à l'ère de migration internationale de plus en plus vaste, et au moment où l'Europe tout de même est confrontée à l'arrivée de flux massifs de nouveaux migrants qui ne cherchent pas ou qui ne peuvent pas toujours s'intégrer, bien entendu, ça pose un problème. Mais ce ne sont pas là forcément les ennemis. Et j'ai caractérisé comme ennemi essentiel de la société ouverte, et on va revenir au problème de la nouvelle censure, ceux qui, en Occident, par exemple dans la société française, soutiennent qu'une société doit s'ouvrir sans limite à tout ce qui fait irruption de l'extérieur. Or, justement, il y a une sorte de censure qui ne dit pas son nom, c'est pas une censure d'État, mais c'est ce qui se passe dans les médias, c'est ce qui se passe dans le monde intellectuel, parfois même dans le monde de l'édition. Tout se passe comme si, et je ne suis pas le premier à le remarquer, des intellectuels contemporains aussi illustres que Pascal Bruckner, que Pierre-André Taguieff, que Glucksmann, etc., l'ont signalé un petit peu avant moi, je pense également à Finkielkraut, eh bien, tout se passe comme s'il avait un interdit de pouvoir s'exprimer librement sur tous ces sujets. Or, s'il y a quelque chose qui caractérise par définition une société ouverte, c'est la liberté d'expression. Voilà le rapport.
Alors, c'est ce que vous pointez du doigt en parlant de la bien-pensance selon un néologisme, semble-t-il.
Oui, encore qu'il est couramment usité depuis une dizaine d'années, justement, au sujet de ces problèmes, alors qu'on va globaliser.
La bien-pensance, c'est de ne pas dire des choses qui pourraient fâcher
le multiculturalisme. La bien-pensance serait très voisine de ce qu'on appelle, à la suite des Américains, le politiquement correct, la political correctness. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on est censé devoir penser pour être bien perçu et pouvoir s'exprimer, pouvoir en effet parader dans tous les médias. Et puis l'un d'autre, qu'il est tout à fait déconseillé, voire interdit, avec parfois d'ailleurs des problèmes de poursuite, de multiples dépôts de plaintes de groupuscules privés. Mais enfin, ça rend la vie infernale. Par exemple, quelqu'un comme Alain Finkielkraut en a fait durement l'expérience il y a seulement quelques années.
D'ailleurs, puisqu'on est sur ce point, vous mettez en annexe de votre ouvrage des fragments d'un florilège complémentaire de la résistance intellectuelle à la bien-pensance. Et on voit effectivement que certains des auteurs que vous citez sont loin de prendre des précautions de style et ils vont y mettre les pieds tout à fait dans le plat du style. Je vois Jean-Pierre Perroncel, Hugoz, qui dit « L'islamisme est la forme conquérante, dynamique de l'islam contemporain. La volonté d'expansion est en quelque sorte naturelle à l'islam. » Numéro hors série de Cité en 2004. Donc là, effectivement, le problème est posé. Alors, c'est pas le seul ennemi, bien entendu.
Oui, donc encore, il s'agissait d'un florilège limité, hein, s'il avait été exhaustif. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on ne croit qui s'opposent à la bien-pensance. Alors, d'une certaine manière, ils sont devenus des mal-pensants. C'est-à-dire qu'ils maintiennent la tradition intellectuelle de la libre critique, du libre examen, sans a priori et sans vouloir se laisser imposer des nouveaux dogmes. C'est pourquoi d'ailleurs je parlais de bien-pensants. Alors les bien-pensants, on en parlait beaucoup il y a un ou deux siècles, c'est comme il fallait fatalement se présenter de façon convenable sur le plan des idées religieuses ou sur le plan des mœurs. Alors maintenant, en effet, grâce aux sociétés ouvertes, on a dépassé ce stade-là et la bien-pensance, le fait de bien penser, de penser comme il faut pour avoir pignon sur rue, c'est déplacé, c'est à propos de tous ces problèmes des religions, de l'islam, de l'immigration, du multiculturalisme, du racisme et de l'anti-racisme, etc. C'est maintenant là que ça se passe.
Ouais. Alors c'est ce que vous dites d'une façon extrêmement claire et que vous développez. Qui sont les nouveaux ennemis? Ils sont à chercher dans les rangs des libéraux parfois et des multiculturalistes souvent, qui en outrant les valeurs de tolérance affaiblissent l'état de droit protecteur de l'égalité des sexes et de la liberté d'expression. Ça résume assez bien le fond de votre...
Oui, tout à fait, parce que l'une des valeurs phares de la société ouverte, c'est évidemment la tolérance et aussi le pluralisme. Or, est-ce qu'il n'y a pas des limites à la tolérance? C'est Taguieff qui en est venu, et puis quelques autres, mais c'est lui qui a lancé l'idée, que je me suis approprié à sa suite, mais évidemment le citant, qui parle d'hypertolérance, c'est-à-dire le fait de devoir taire toute critique à l'égard de quelque chose qui ne nous paraît pas tout à fait conforme aux principes traditionnels de la société ouverte.
Oui, c'est dans votre florilège, on trouve aussi Alain Finkielkraut qui dit « Au nom de la tolérance, on nous invite à approuver bruyamment l'intolérance des autres à notre égard.
Voilà, »
Je crois que c'est tout à fait le résumé. Alors oui, donc un constat qui est quand même un petit peu, on va dire, inquiétant. Quelle solution vous proposez pour, enfin du moins, les pistes sur lesquelles on devrait infléchir la société ouverte pour qu'elle se combatte un peu mieux, en tout cas, ses nouveaux ennemis?
Alors, au fond, il y a deux niveaux. Un premier, c'est tout de même de retrouver les vertus de l'esprit de résistance. Il faut d'abord que, comme le font non seulement d'ailleurs des intellectuels occidentaux, mais j'ai eu grand plaisir à citer et à soutenir ce qui, par exemple, à l'extérieur de l'Occident, je pense en particulier à un certain nombre de musulmanes, de femmes tout à fait courageuses et qui voient beaucoup plus clair à propos de ce qu'il en est de la société ouverte que bien des occidentaux, comme on dit, de souche, dont je pense à Ayaan Hirsi Ali, à Chandor Javan, à Irshad Manji, etc., à Vafa Sultan aux États-Unis. Donc il y en a des dizaines, un éclat Kelec en Allemagne.
Chandor Javan qui avait écrit, si je me souviens bien, Ce que pense Allah de l'Europe.
Voilà, c'est ça.
C'était ça, oui, d'accord. Voilà. Oui, ça avait fait à l'époque du bruit.
Elle a encore publié d'ailleurs une libre opinion dans Le Monde d'hier, donc elle est toujours extrêmement active, comme ses consoeurs. Donc il faut qu'il y ait cette résistance intellectuelle, et ce qui est éminemment souhaitable, c'est qu'elle ne soit pas, j'ai dit dans un premier temps, qu'elle ne soit pas le fait simplement d'une poignée d'intellectuels occidentaux. Or, c'est pratiquement l'inverse, c'est plus hors d'Occident, avec ces femmes, puis aussi un certain nombre d'hommes musulmans, qui, eux, ont bien compris quelles sont les implications, les conditions et les dangers qui menacent la société ouverte. C'est avec eux et à partir d'eux que l'on pourra faire quelque chose. Alors, deuxièmement, faire quoi ? Tout simplement, rappeler qu'une société ouverte n'est pas pour autant une auberge espagnole. Ce n'est pas parce qu'on échange librement des biens qu'on est obligé fatalement d'accueillir dans nos pays des gens qui refusent les valeurs des sociétés ouvertes, c'est ça. Et je pense qu'il faut être particulièrement ferme et rigoureux de ce point de vue-là. Alors, ce que font un certain nombre de gens, peut-être même une majorité de ceux qui se reconnaissent dans ce problème, à propos de la laïcité. Mais ce que j'ai voulu montrer aussi dans ce livre, c'est que tous ces problèmes de relations entre nos démocraties libérales et égalitaires, d'une part, et puis le multiculturalisme, ce que Taguieff encore appelle l'immigrationnisme, avec toutes ces, le communautarisme, etc., ça ne concerne pas que la France. Et ce que je reprochais, même à certains dont je me sens très très proche, c'est de toujours ramener le problème en France à la République. Or, les mêmes problèmes se posent en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Italie, au Canada, en Australie, parfois même donc en Suède, au Danemark, donc y compris dans des monarchies, bien que ce n'est pas une grande importance. Donc j'ai voulu dépasser le cadre trop restrictif de la seule République à la française pour dire c'est le problème de toutes les démocraties libérales, européennes et même occidentales, et aussi le problème de ceux qui, hors d'Occident, vont dans la même direction.
Bien, eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas au moins pour mettre en appétit nos auditeurs et vos futurs lecteurs. Alain Laurent, donc, qui vient de publier « La société ouverte et ses nouveaux ennemis » et qui propose une résistance intellectuelle d'un libéral sur ce sujet. « Les belles lettres », 320 pages, 21 euros. Mais nous allons, après une courte pause, revenir sur une autre facette de votre talent, car vous savez aussi jouer collectif. À tout de suite.
Écoutez l'entretien sans phare avec l'écrivain Dominique Fernandez, élu à l'Académie française en mars 2007. Il raconte sa relation à son père, écrivain comme lui, évoque son parcours personnel et son œuvre de romancier et d'essayiste. Dominique Fernandez livre son sentiment d'avoir été longtemps un paria et raconte l'éblouissement ressenti face à un Pasolini dans La main de l'ange, livre qui lui valut le Goncourt en 1982 après le Médicis de 1974 pour Porporino ou Les Mystères de Naples. Cet entretien au micro d'Elisabeth Antebi est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademie.com.
Chers amis de Canal Académie, nous retrouvons Alain Laurent qui vient de publier, comme nous l'avons vu tout à l'heure, La société ouverte et ses nouveaux ennemis aux belles lettres, dont il dirige une collection. Et pour donc une autre expression de son talent, puisqu'il vient de participer à un ouvrage collectif publié par le Cercle Turgot et édité par Les Échos et Hérols, dont le titre est en soi une histoire complète sur l'actualité, repenser la planète finance, regard croisé sur la crise financière, le Cercle Turgot étant présidé par Jacques-Henri David. L'idée, c'est tout simplement de proposer une analyse, on va dire, multidisciplinaire, de porter un regard multidisciplinaire sur ce sujet, sur lequel bien d'économistes et bien d'analystes se cassent un peu les dents. Alors, cet ouvrage « Repenser la planète finance » paraîtra donc fin mars et vous les trouverez dans toutes les bonnes librairies. Alors pour votre part, Alain Laurent, vous traitez du regard des autres sciences, on va dire de la philosophie, puisque vous êtes philosophe et essayiste. Et bien sûr, vous venez de faire un parallèle extrêmement remarqué, un rapprochement extrêmement remarqué entre Turgot, le tenant du laisser-faire, et le libéralisme et la crise financière. Alors, Vous appelez votre article s'intitule « Libéralisme et laisser faire la leçon de Turgot ». Quelle est cette leçon de Turgot sur la crise financière à travers le libéralisme? Et d'abord, laisser faire, c'est laisser les faire plus exactement.
Oui, alors on va. Donc, c'est en tant qu'historien des idées, en plus que je me suis beaucoup intéressé à Turgot et que je continuerai à m'y intéresser. Et sur ce plan-là, ce qui avait beaucoup retenu mon attention, mais il y a déjà assez longtemps, il y a une bonne douzaine d'années, c'était que l'un des concepts qui, sur le plan de l'économie, caractérise la tradition libérale, c'est l'idée de laisser faire. Soulignons au passage, puisque c'est sur les ondes que ça se passe, donc il faudrait la voir sous forme écrite, que laisser faire, curieusement en France, est toujours mal orthographié. Il ne s'agit pas de laisser faire à l'infinitif, mais de laisser faire, vous venez d'ailleurs implicitement de le rappeler, presque au sens impératif, laisser les faire ou laisser nous faire. Alors il faut rappeler le contexte, qui n'a pas échappé à l'attention de Turgot, c'est qu'à l'époque, dans le cadre de l'absolutisme monarchique et des monopoles et privilèges d'État et d'une hyper-réglementation de pratiquement tout, eh bien, les premiers économistes, ce qui relève de ce qu'on appelle de cette époque l'économie politique, prônent le laisser-faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, et Turgot qui se réfère à son mentor, à son maître Vincent de Gournay, emploie cette expression, et surtout, il en explicite bien le sens. Ça veut dire, par rapport à tous les carcans qu'impose le pouvoir politique en matière de réglementation, souvent de taxation et d'intervention, eh bien, il vaut mieux infiniment faire confiance aux acteurs de la société. D'ailleurs, ce sont des acteurs qui vont au-delà de la seule économie au sens strict du terme, parce qu'ils sont les mieux placés localement, là où ils sont, en poursuivant leurs propres intérêts, pour savoir ce qu'il convient de faire. Et c'est ce que Turgot s'est employé d'ailleurs à mettre en œuvre pendant les deux années où il a été au pouvoir, en promulguant des édits de libéralisation, où il s'agissait en effet de laisser faire les gens, pourvu qu'ils se comportent de façon raisonnable, qu'ils assument leurs responsabilités, qu'ils suivent ce qu'on appelait à l'époque la voie de la droite raison, à cette condition-là, en effet, et tout de même, sous la protection d'un État limité, mais qui a pour vocation de faire respecter le droit des individus, de faire respecter leurs droits de propriété, leurs droits de pouvoir entreprendre, mais faire respecter le droit, ça veut dire qu'on leur impose de se respecter mutuellement, eh bien, dans ce contexte-là, en effet, il peut y avoir un laisser-faire et on peut laisser faire les individus. Mais d'emblée, Turgot souligne bien qu'il ne s'agit pas de laisser n'importe
faire.
Quoi,
c'est ça.
N'est-ce pas ? C'est laisser les faire, c'est ça. Comment dire, l'injonction qui est adressée aux gouvernants de l'époque, et ça faisait écho, en quelque sorte, à un entrepreneur du XVIIe siècle qui était confronté à Colbert et qui excédait avec tous les monopoles, les réglementations, les interventions, etc., les taxations, s'était crié « mais laissez-nous faire ». Laissez-nous faire, étant entendu qu'en effet, là où nous sommes bien meilleurs juges que vous de ce qu'il convient de faire localement lorsqu'on entreprend.
Alors le regard que vous portez, vous, en tant que philosophe sur la crise, je vais en donner un aperçu. Tout semble bel et bien, à la page 32 de ce futur ouvrage, donc « Repenser la planète finance » par le cercle Turgot, tout semble bel et bien s'être passé comme si une petite caste arrogante s'était enfermée dans la pire des bulles, celle qui isole du réel et déconnecte de ses contraintes et limites et fait perdre le sens le plus élémentaire de rationalité et de la responsabilité personnelle. Et comme si ces élus, entre guillemets, s'étaient comportés en prédateurs et exploiteurs du capitalisme à leur profit exclusif, donnant ainsi naissance à une sorte de chancre ou une prolifération de cellules cancéreuses, n'ayant plus rien à voir avec le libre jeu financier servant le capitalisme entrepreneurial dont ils ont déréglé l'autorégulation. Je crois que tout est dit dans cette phrase et je pense que beaucoup d'observateurs vous rejoignent au moins sur ce sujet. Alors vous parlez d'autorégulation et vous précisez à la page 33 qu'il faut se garder d'une première erreur, c'est de confondre dérégulation et déréglementation.
Oui, alors ça vient en partie d'une étrange incompréhension de l'anglais parlé aux États-Unis, où regulation veut dire réglementation. Quand vous entrez, par exemple, quand on va dans la vie courante aux États-Unis, qu'on entre dans un magasin, dans un parc national quelque part, il y a regulation, ça veut dire le règlement. Donc, ce qu'ont fait les économistes libéraux à partir des États-Unis, c'est déréglementer, mais déréglementer ne veut pas dire qu'il n'y a plus de régulation. Non seulement il y a la possibilité de l'autorégulation, mais bien entendu, il y a aussi une régulation, j'allais dire latérale, par l'intermédiaire du droit ou éventuellement une intervention minimale de l'État. Et dans la phrase que vous citiez, ce sur quoi j'ai voulu attirer l'attention consiste à m'opposer à deux opinions très en vogue actuellement. Alors, celle parfois de mes propres amis économistes libéraux qui ont tendance à toujours dire « c'est la faute à l'État ». Et ils sont loin d'avoir, évidemment, tort, puisque l'origine de la crise, c'est tout de même l'État américain avec, politique. Alors, non seulement c'est la banque centrale, mais la crise dite des subprimes, au début, est tout de même celle du crédit hypothécaire consenti à des individus insolvables au nom de l'État-providence pour qu'en effet tout le monde accède à la propriété. Donc ça, c'était proprement irresponsable. Mais ce qui est non moins irresponsable, c'est d'avoir sauté sur l'occasion pour, si je peux dire, en tirer profit et disséminer dans la nature, par l'intermédiaire de la titrisation, des choses dont on ne savait même plus de quoi il s'agissait. Alors, donc, d'une part, je m'oppose à l'idée selon laquelle il pourrait y avoir en effet une autorégulation spontanée des sociétés, en tout cas des marchés. Non, il faut qu'il y ait une sorte de réglage préalable de la régulation ou de l'autorégulation. Et ce réglage préalable, il se situe sur deux plans. D'une part, bien entendu, institutionnel. Tout cela va, évidemment, ne peut que prendre place sous le regard de l'État de droit qui fait respecter un certain nombre de principes et de règles. Et deuxièmement, ce qu'on a toujours tendance à employer, ça dépend également des mœurs, c'est-à-dire de la capacité des individus à se comporter d'une façon raisonnée, responsable, à faire preuve parfois de goût du risque, mais en même temps ne pas délaisser la prudence. Or, si les mœurs, comme on disait depuis Montesquieu, si les mœurs ne sont pas là, tout système risque en effet de se dégrader et d'imploser. Donc je soutiens en effet que l'autorégulation ne se fait pas à n'importe quelle condition. Mais contre la doxa dominante, contre ce que pratiquement tout le monde raconte actuellement, y compris au plus haut niveau de l'État, ce n'est pas du tout la fin ni du laisser-faire ni de l'autorégulation. L'autorégulation est bel et bien possible. Donc voyez-vous, en intellectuel libéral mais qui n'a pas perdu son esprit critique, je me bats sur deux fronts. L'État n'a pas tous les torts, mais par ailleurs, le libre marché continue à pouvoir faire ses preuves. L'autorégulation, en effet, peut continuer à exister à condition de ne pas faire n'importe quoi.
Alors vous ne croyez pas trop à la baguette magique des politiques. En page 35, vous dites ceci qu'on trouve sous votre plume, qui est assez remarquable. Est-ce que les politiques sont pour autant mieux placées que d'autres pour instaurer une meilleure régulation, comme on voudrait tant le faire croire en proclamant qu'il faut refonder le capitalisme et que le moment est venu du retour de l'État ? Turgot et bien d'autres à sa suite l'avaient bien pointé. Dirigeants politiques et grands commis de l'État ne sont pas d'une extraction surnaturelle qui les rendrait mieux aptes que quiconque à discerner l'intérêt général. Eux aussi sont, tout en se parant de vertu et de l'onction électorale, cherchent à satisfaire leurs intérêts particuliers, clientélisme, idéologie, etc. Rien ne prouve qu'ils disposent de compétences surhumaines qu'il faudrait avoir pour prétendre réguler l'ordre hyper complexe du marché. Je crois que c'est une partie de votre pensée. Je rappelle à nos auditeurs que vous venez de faire paraître, enfin, en tout cas récemment, un ouvrage qui a été très remarqué, « La société ouverte et ses nouveaux ennemis », Alain Laurent, Les Belles Lettres, 320 pages, 21 euros, et que simultanément, vous avez joué collectif, si on peut dire, en participant à la publication du premier ouvrage du Cercle Turgot, Repenser la planète finance, apparaître fin mars, coédité par les Échos et Erol, édition d'organisation. Alain Laurent, nous avons été ravis de vous accueillir sur cette antenne. Vous êtes en quelque sorte d'ailleurs un petit peu ici chez vous, puisque vous avez été grand prix de l'Académie pour un de vos ouvrages. Merci à vous et au plaisir de vous retrouver sur cette antenne.
Merci aussi à vous.